RCF.
Et à 18h10, nous allons tout de suite rejoindre Jean-Pierre Benoît pour le 18-19.
Pour nos amis de Reims, de l'arrondissement de Reims et des Ardennes sur RCF Reims-Ardennes avec Fabrice Gironnet à la mise en onde. Ce soir, nous partirons du côté des pèlerinages et du pèlerinage de Chartres avec quelqu'un de particulier. Évidemment, Jean-François Boulanger nous le présentera dans quelques instants. On parlera des maires, toujours à leur rencontre, en proximité pour la radio RCF avec Bertrand Boily, les maires de Bruy-sur-Vel. Et puis, nous reviendrons avec des titres d'actualité sur évidemment la Toussaint, la grande fête chrétienne, le 1er novembre, le 2 novembre, c'est la fête des défunts, la fête des morts. Et puis nous reviendrons justement sur un événement, ce sera à l'occasion de la Toussaint, avec une petite anticipation, puisque ce sera à 15h le jour de la Toussaint, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims, au cimetière de l'Ouest, qui priera pour tous les prêtres défunts et pour leurs familles, tout le monde est invité. On reparlera avec Patrick Demuy de la Toussaint dans l'histoire. Et puis pour nous changer, on repartira dans les Ardennes avec Catherine Sequevin parce que les Ardennes sont labellisées département fleuri. Nous écouterons Dominique Arnoux nous en parler. Alors tout de suite, évidemment, on s'adresse à Jean-François Boulanger qui est avec nous et pour mémoire chrétienne. Alors Jean-François Boulanger, d'abord, bonjour.
Bonjour.
Jean-François, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup il y a beaucoup de nuages dans le ciel, c'est plutôt voilé, mais vous allez éclaircir tout cela ce soir puisque vous allez nous entraîner avec mémoire chrétienne à un pèlerinage qui est le pèlerinage de Chartres, mais ce soir un pèlerinage hors du commun puisqu'il s'agit du pèlerinage d'un seul homme vers un lieu qui, lorsqu'il en prend le chemin, n'est guère fréquenté par les pèlerins et que par ailleurs, ce pèlerinage a laissé une trace littéraire. L'homme, vous nous le présentez, c'est l'écrivain Charles Péguy, et le lieu, c'est évidemment Notre-Dame de Chartres.
Effectivement, Péguy est en quelque sorte considéré comme une sorte de refondateur du pèlerinage de Chartres, même si ce n'est pas totalement vrai, on y reviendra. Et l'histoire commence le 14 juin 1912, lorsque Charles Péguy entreprend le pèlerinage de Chartres à la suite d'un vœu fait l'été précédent au chevet de son fils malade. Voilà comment il raconte l'histoire. Alors mon vieux, j'ai senti que c'était grave, il fallait que je fasse un vœu. J'ai fait un pèlerinage à Chartres, je suis beauceron, Chartres est ma cathédrale, j'ai fait 144 km en 3 jours. Mourir dans un fossé, ce n'est rien vraiment, j'ai senti que ce n'était rien, mais faisons quelque chose de plus difficile. Et ce parcours de 144 km, Péguy va l'effectuer 3 fois les 3 années précédant sa mort sur le front de la Marne en 1914. Et chaque fois, animé de motivations différentes, le deuil ou simplement la soif de prière, il s'y rend avec différents compagnons de route choisis parmi ses connaissances. La première fois, c'est l'écrivain Alain Fournier, l'homme du Grand Maulne, qui d'ailleurs l'abandonna en cours de route. La deuxième fois, c'est le fils aîné de Péguy qui fera une partie du chemin avec lui. Et la troisième fois, qui compte pas vraiment, ce sera un aller-retour en train en compagnie d'amis. Et donc le premier de ces pèlerinages, celui de 1912, intervient à peu près 4 ans après son retour à la foi. Quant au souvenir littéraire de ce pèlerinage, c'est le poème intitulé « Présentation de la Beauce à Notre-Dame de la Chartre ».
Jean-François Boulanger, vous venez de nous dire que ce pèlerinage intervenait 4 ans après son retour à la foi. Alors pouvez-vous nous en dire un peu davantage ?
Oui, Péguy fait partie de ces écrivains et artistes qui, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, soit se convertissent au christianisme, soit reviennent à la foi de leur enfance. On connaît bien ce phénomène grâce aux travaux notamment de Frédéric Gugelot, qui a consacré sa thèse éditée au CNRS et qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Reims. Péguy est issu d'un milieu pauvre et il fait partie de ces enfants formés par l'école laïque, repérés par ses instituteurs, les fameux hussards noirs de la République, l'expression est de Péguy, qui le distingue, l'emmène vers le lycée, une bourse, puis vers l'école normale supérieure. Et c'est pendant ces années de préparation à l'école normale supérieure qu'il va devenir un anticlérical convaincu et un socialiste. Et lorsque l'affaire Dreyfus éclate, il se range dans le camp des défenseurs de Dreyfus, où il retrouve Léon Blum ou Jaurès. Et il va s'éloigner brutalement de Jaurès lorsqu'il va devenir nationaliste. Et son retour au catholicisme a lieu entre 1907 et 1908. En 1910, il le rend public, si l'on peut dire, en faisant paraître le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Et il présente sa conversion dans ces termes, je le cite une nouvelle fois. Ce n'est nullement par un rebroussement que nous avons trouvé la voie de chrétienté. Nous ne l'avons pas trouvée en revenant, nous l'avons trouvée au bout. Et c'est pour cela que nous ne renierons jamais un atome de notre passé. Alors les catholiques, du coup, se sont méfiés de cette conversion parce que, justement, il y a ce passé de Péguy et le fait qu'il prétend ne rien renier de ce passé. Et c'est dans ce contexte, ainsi que celui de nombreuses difficultés personnelles, on vient d'en parler, et littéraires, ça marche pas très bien pour lui, que Péguy va effectuer ce pèlerinage.
Alors, un pèlerinage individuel, dites-vous, qui est en quelque sorte transfiguré complètement par la littérature.
Oui, absolument, parce que Péguy nous a raconté son pèlerinage et notamment sa dernière étape de Dourdan à Chartres, une quarantaine de kilomètres qu'il effectue d'un pas décidé en une journée, le regard tendu vers l'horizon où il sait qu'à un moment donné apparaîtra la flèche de la cathédrale de Chartres. Et il la voit apparaître donc à un moment donné, je cite encore, on voit le clocher de Chartres à 17 kilomètres sur la plaine. De temps en temps, il disparaît derrière une ondulation, une ligne de bois. Dès que je l'ai vu, ça a été une extase. Toutes mes impuretés sont tombées d'un coup. J'étais un autre homme. Et vous voyez, cette image, cette révélation visuelle fulgurante va lui inspirer la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, un texte, là encore, mémoriel d'une certaine façon. Je le cite, il en vaut la peine. « Un homme de chez nous, de la glèbe féconde, a fait jaillir ici d'un seul enlèvement et d'une seule source et d'un seul portement, vers votre assomption, la flèche unique au monde. Tour de David, voici votre tour Beauceronne. C'est l'épi le plus dur qui soit jamais monté vers un ciel de clémence et de sérénité, et le plus beau fleuron dedans votre couronne. Un homme de chez nous a fait ici jaillir, depuis le ras du sol jusqu'au pied de la croix, plus haut que tous les saints, plus haut que tous les rois, la fraîche irréprochable et qui ne peut faillir. C'est la pierre sans tache et la pierre sans faute, la plus haute horizon qu'on ait jamais portée, la plus droite raison qu'on ait jamais jetée, et vers un ciel sans bord, la lignée la plus haute. Et donc, vous voyez, cette vision va marquer les sensibilités jusque par chez nous, puisque sur la couverture de l'histoire du diocèse de Châlons, qui est paru donc en 1989, figure un tableau qui représente Notre-Dame de l'Épine à l'horizon d'un champ de blé. Et on imagine volontiers que ce qui a inspiré le peintre, c'est justement Notre-Dame de Chartres, telle que Péguy l'a vue.
Alors ce pèlerinage de Charles Péguy, Jean-François Boulanger, a-t-il laissé d'autres traces mémorielles?
Oui, et on va commencer par une trace qui s'inscrit dans la droite ligne de ce que nous avons déjà dit à propos des chemins de Saint-Jacques ou de ceux de Saint-Martin dans d'autres émissions, c'est-à-dire l'existence de sentiers de randonnée patrimoniaux, car il existe un chemin Charles Péguy.
Dans quelles conditions ce chemin Charles Péguy a-t-il vu le jour?
Donc, le pèlerinage a eu lieu en 1912, donc le centenaire est fêté en 2012. Et à cette occasion, l'association des l'amitié Charles Péguy décide de refaire ce parcours et balise un chemin Charles Péguy entre Lozère, c'est un lieu dit de la commune de Palaiseau dans le département de l'Essonne, et Chartres. Cette réalisation a bénéficié du soutien du Conseil général d'Eure-et-Loire et de 27 communes ou communautés de communes concernées. Et donc, en 2013, le chemin Charles Péguy a reçu le label Mission du Centenaire, dans le cadre de la commémoration de la Grande Guerre, puisque Péguy est mort donc pendant cette guerre. Et donc le parcours est ainsi commenté, je cite, « On sera surpris de la variété des paysages traversés, de la beauté des villes jusqu'à la beauté finale, la flèche inimitable de Chartres, vue par Péguy à 17 km. Les dénivelés des vallées sont marqués, ainsi l'image convenue d'une Beauce morne et sans attrait est-elle dépassée. On s'étonnera de découvertes paysagères, on ne soupçonne pas en les traversant à grande vitesse sur autoroute et en TGV. Donc, on est dans la logique d'un sentier de grande randonnée, mais le randonneur est invité à emporter quand même avec lui, bien sûr, le célèbre poème de Charles Péguy.
Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres. Alors c'est vrai, Jean-François Boulanger, pour terminer, les chemins de Saint-Jacques trouvent leur justification et la raison de leur regain dans le développement des pèlerinages, par exemple vers Compostelle. L'existence du sentier de randonnée vers Chartres trouve-t-il sa raison d'être dans le seul passage de Charles Péguy?
Non, parce que justement, on va le voir bientôt, l'héritage mémoriel du pèlerinage de Peggy en 2012 comprend également de véritables pèlerinages collectifs, mais c'est une, ou plutôt des histoires que nous verrons donc à l'occasion d'autres émissions.
Merci en tout cas Jean-François Boulanger de nous avoir fait emprunter un chemin vers Chartres, mais qui a été emprunté par un homme qui a marqué à la fois l'histoire de la foi et de la littérature. Merci de nous en avoir parlé et bien entendu
à la semaine prochaine.
Bien entendu, il y a beaucoup à dire. Merci Jean-François Boulanger, à la semaine prochaine, au revoir.
À la semaine prochaine, au revoir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Vous savez que tous les midis depuis le lundi 4 septembre dernier, nous vous proposons sur RCF une émission qui a pour titre « Votre maire nous parle ». Objectif, aller à la rencontre des communes et des maires, à la fois de l'arrondissement de Reims et du département des Ardennes. Une rencontre de proximité, car le maire est un élu qui est à portée, comme on dit, d'engueulade avec ses administrés, mais aussi d'encouragement. En tout cas, c'est un personnage proche, connu dans les villages. Nous allons à leur découverte aujourd'hui encore avec Bertrand Boilly. Il est maire de Breuil-sur-Vel. Bertrand Boilly, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous présenter géographiquement et puis la population de Breuil-sur-Vel, parce qu'on a des auditeurs aussi des Ardennes, alors on aimerait bien situer un petit peu votre commune.
Alors, Breuil-sur-Vel, c'est une charmante petite commune située dans l'Ouest Rémois, à 20 km environ de Reims, entre Joncherey-sur-Vel et Fismes. Et l'accès se fait essentiellement par la RN 31 ou la ligne TER Reims-Fismes.
Vous êtes maire depuis plusieurs années, Bertrand Boilly.
Oui, je suis maire depuis 2008. Je suis à la moitié de mon troisième mandat.
Mais vous avez toujours bien aimé. Enfin, c'était un peu inscrit dans votre ADN. Vous vous êtes impliqué, j'allais dire, de façon régulière. Et puis voilà, c'est venu comme ça ou?
C'est un peu ça. Alors je sais pas si c'est une question d'ADN, mais on dirait que petit, j'aimais bien représenter les autres, délégué de classe, capitaine de mon équipe de handball, chef scout, etc. On est toujours intéressé par l'actualité, la politique au sens de la vie de la cité. Et donc après, il n'y a rien de programmé, mais les hasards de la vie, l'ancien maire qui m'a proposé de rejoindre le conseil municipal en 2001, et puis les choses se sont faites, naturellement.
Combien d'habitants dans la commune aujourd'hui, et quel est le type d'activité des habitants? Des agriculteurs, des viticulteurs, des retraités, des...
Actuellement, on a environ 350 habitants sur la commune. Je dirais que ce sont plutôt des actifs qui travaillent sur le bassin rémois, Reims et ses communes riveraines. On a une exploitation agricole sur la commune. Anciennement, c'était une commune très très industrielle. Il y avait deux briqueteries qui étaient situées dans la commune, mais qui ont fermé dans les années 70, avec un petit déclin de population derrière. Et depuis les années 2000, le regain d'immobilier sur l'Ouest Rémois et des gens qui viennent là pour y trouver, je dirais, le calme et puis la campagne.
Je vous interromps, monsieur le maire, mais souvent, oui. C'est une remarque que les maires font quand ils sont pas très loin d'une grande agglomération ou d'une commune, d'un bourg-centre. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien être à la campagne aujourd'hui. Peut-être que c'est un effet Covid, hein, j'en sais rien, mais il y a quand même le plaisir d'avoir un petit jardin, d'être à l'air, d'être pas loin de la ville. Un cadre de vie quand même à Breuil-sur-Vel.
C'est exactement ça. Avoir le petit bout de jardin, pouvoir discuter avec son voisin, se dire bonjour dans la rue quand on se croise, avoir l'impression d'être appartenir à une petite communauté, je dirais, avoir un point commun et être effectivement un peu loin de la, loin sans être loin en fait, c'est ça, de la vie urbaine.
Alors c'est vrai qu'il y a des maires qui ne veulent plus reprendre du service parce que il y a quand même des responsabilités quand même maintenant.
Alors il y a beaucoup de responsabilités, il y a un champ d'action qui est assez énorme, hein, ça va du social à l'urbanisme, passant par l'organisation des cérémonies, les énergies renouvelables, etc. Donc c'est vrai que le champ est énorme. Il y a beaucoup de responsabilités. On a parfois l'impression d'être un peu abandonné des services, mais on fait ça parce qu'on a quand même l'impression d'être utile, donc on s'accroche, je dirais.
Alors il est vrai, Bertrand Boily, que souvent le maire est sollicité, mais il y a quand même les communautés de communes, il y a aussi le Grand Reims aujourd'hui. Alors c'est une question que je pose à chaque maire dans les communes, c'est avouez-vous encore le sentiment, moi je pense que c'est vrai, d'être un peu quand même le patron de la commune, quoi. Vous êtes resté le patron, même si il y a des décisions qui sont discutées dans d'autres instances.
Oui, bah écoutez, les choses ont changé effectivement. Ça a été peut-être un petit peu compliqué au début pour comprendre le fonctionnement, le mécanisme, les rouages de tout ça. Mais effectivement, moi je reste persuadé qu'on reste quand même patron chez nous. On a quand même le droit de parler. Ça nous permet aussi. Il y a quand même des sujets qui sont au-delà de la commune et bah, qui sont importants dans leur retombée sur la commune. Donc le Grand Reims, ça permet ça. On a gardé quand même capacité à décider. Bon, bah, pas de tout. Effectivement, il y a des lourdeurs administratives, mais il y a aussi une capacité financière qui est autre dans les communautés de communes. Donc je pense que c'est un modèle qui, bien utilisé, est quand même meilleur qu'un modèle sans, on va dire.
Alors, Bertrand Boily, est-ce que vous avez à court terme, ou à plus long terme, ou à moyen terme, des projets en cours avec votre conseil municipal? Est-ce que vous avez 2-3 objectifs que vous vous êtes assignés?
Oui, mais des projets, on manque pas de projets, on a toujours plein de projets. Dans les projets, dans les premiers projets qui me viennent à l'esprit, il y aurait remettre en place une passerelle qui nous liait avant avec la commune des Venteaux et permettrait de la mobilité douce et qui s'inscrirait bien dans le schéma cyclable du Grand Reims. On a ça. On voudrait végétaliser notre cimetière, parce que bon, le cimetière, c'est quand même un lieu qui maintenant, vu qu'on a plus, on ne peut plus utiliser de produits phytosanitaires, qui est de plus en plus difficile à entretenir. Disons que le cimetière, c'est un lieu étrange, parce que les cimetières sont toujours un petit peu tristes, alors que les gens viennent y mettre des fleurs. Donc on s'est dit, pourquoi pas y remettre de la verdure pour que le cimetière ne soit plus forcément un lieu triste, mais aussi un lieu effectivement.
Mais je vais vous faire une confidence, ça n'a rien à voir avec l'émission, mais moi j'aime bien les cimetières. Je vis parfois, je suis allé dans des villages, plutôt dans les Ardennes, où à chaque fois que je passe, je m'arrête sur des tombes des gens que j'ai pu connaître, ou des gens que mes grands-parents ou ma grand-mère connaissaient à Warg, dans les Ardennes. Ah, je dis, c'est monsieur Intel, il jouait au boule dans la commune. Et je m'arrête comme si ils étaient tous vivants.
Oui, et c'est pour ça qu'on se dit, pourquoi pas essayer de végétaliser notre cimetière et en faire un lieu agréable, entre guillemets, qui soit, enfin, on pourrait presque s'y balader, enfin, ça serait agréable, il y aurait des fleurs, un arbre, etc. Donc, on a ce projet-là, là, on est en train d'y réfléchir, mais bon, ça demande de bien étudier la chose aussi, parce que, bon, un cimetière, il y a aussi, tout est très cadré, et il faut quand même un respect aussi du lieu, donc voilà, ça fait partie de notre projet.
Comment conjuguer la vie professionnelle, la vie familiale et le fait d'être maire? C'est facile?
Alors, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question et ce n'est pas facile. Non, je dirais que c'est peut-être la partie la plus compliquée du rôle de maire. C'est que quand vous êtes maire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous ne pouvez pas vous arrêter d'être maire. Vous êtes, Donc il y a des moments effectivement où vous n'êtes pas sollicité, mais vous pouvez à tout moment être sollicité, et donc forcément ça a un impact sur la vie familiale. Et je remercie d'ailleurs ma famille d'être compréhensive et d'accepter certaines fois effectivement on a ce rôle de maire qui est à tout moment dans la commune. On peut pas se balader dans la commune sans être le maire. Donc effectivement, des fois c'est la partie, je dirais, peut-être la plus usante et la plus difficile à travailler.
Alors pour conclure, parce que le temps passe très très vite avec vous, Bertrand Boily, de Breuil-sur-Vel, maire de Breuil-sur-Vel, est-ce que vous êtes, je le pose la question à chaque maire tous les jours, est-ce que vous êtes un maire heureux malgré tous les problèmes, les difficultés? Vous aimez ça? Vous êtes un maire heureux? Vous êtes au service?
Je vais vous dire oui, c'est un mandat que j'exerce avec passion. Bon, je dis tout le temps, il y a des pour, il y a des contre, mais si je me représente, c'est qu'au final, je dois trouver que c'est quand même plus positif que négatif comme rôle. C'est vraiment un rôle.
Vous êtes un maire heureux.
Oui, un maire heureux.
Merci Bertrand Boily, maire de Breuil-sur-Vel, d'avoir été avec nous. Et puis, vous savez, vous revenez quand vous voulez. Hein. Vous avez, comme on dit un peu familièrement, un rond de serviette. On parlera de votre commune si vous le souhaitez. Merci Bertrand Boily.
Eh bien, c'est gentil. Merci beaucoup.
Au revoir. Au revoir Bertrand Boilly, mais on vous retrouvera bien sûr sur RCF Reims-Ardennes. Sachez que après-demain, jeudi à midi, le 2 novembre, jour des défunts, nous retrouverons à midi Madame Anne Fripon, qui est maire du Mont-Dieu dans le département des Ardennes. En attendant, il est 18h30, l'heure de retrouver un journal local d'info. La Toussaint, c'est demain, dans quelques instants, nous retrouverons ce que nous disait il y a quelques jours l'archevêque de Reims, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. La Toussaint, avant le jour des morts, le 2 novembre, et avant l'ouverture, le 3 novembre, de l'Assemblée plénière des évêques de France, qui va se dérouler à Lourdes jusqu'au 8 novembre. On aura l'occasion vendredi d'en reparler en direct de Lourdes avec Monseigneur Étienne Véteux, qui sera avec nous. Des étudiants internationaux rencontrent les lycéens de l'Académie de Reims. C'est un événement, bien sûr, mais qui ouvre les étudiants de Reims à l'universalité, à l'Europe, mais aussi à l'international. On y revient. Soirée d'Halloween, la sécurité est renforcée dans les Ardennes. Pour cette soirée, les festivités commenceront ce soir. Dans un contexte de sécurité renforcée, des mesures ont été annoncées par le préfet des Ardennes.
RCF, le journal, Jean-Pierre Benoît.
Des étudiants européens ont rencontré des lycéens et des étudiants de Reims dans plusieurs établissements. Ce sont des ambassadeurs européens, des étudiants venus en France avec des programmes, par exemple Erasmus ou des volontariats. Et si certains sont en France depuis déjà quelque temps, d'autres sont encore en train de se familiariser avec la culture et notre langue, la langue locale. Pour eux, c'est l'occasion de s'engager dans leur pays d'accueil et de faire de nouvelles rencontres. Si vous regardez, si vous lisez l'Union de ces derniers jours, vous écouterez en particulier le témoignage d'une étudiante allemande à Sciences Po Reims depuis 2 ans qui a entendu parler de ces ambassadeurs européens et elle a vraiment pensé que c'était une bonne opportunité pour partager son expérience, surtout qu'elle a beaucoup voyagé. Elle a intégré des ambassadeurs européens il y a 1 mois, elle était présente sur de nombreux forums et c'est l'occasion d'aller à sa rencontre, à lire dans le journal d'Union et puis nous rencontrerons bien sûr des étudiants qui vont au bout du monde avec Alexis Claudresse qui nous propose des nouvelles du monde et des étudiants qui ont quitté notre région mais qui sont en quelque sorte pour nous des ambassadeurs aux quatre coins de la planète. Pour la soirée d'Halloween, on en parle peu sur notre antenne, vous le constaterez, on parle davantage de la Toussaint. Halloween, c'est une fête qui nous a été importée, mais bon, ça fait rêver, ça fait chanter, ça fait faire des grimaces. Mais enfin, la soirée d'Halloween, elle est un peu compromise dans le département des Ardennes, car plusieurs mesures de sécurité ont été instaurées par la préfecture des Ardennes pour cette soirée, en ce mardi 31 octobre. Ce soir, et toutes les animations qui vont avec, vont être dans un contexte de sécurité renforcée. Des mesures viennent d'être annoncées par la préfecture qui demande de faire très attention sur l'ensemble du domaine public et les voies publiques du département des Ardennes. Interdiction de la vente à emporter d'alcool et de sa consommation. La vente et le transport d'artifices et d'hydrocarbures au détail, d'acides, de produits inflammables, chimiques ou explosifs et bien évidemment également interdit, il est évidemment aussi de la même façon interdit de détenir ou de transporter des armes ou des objets pouvant constituer une arme par destination. Dans un tout autre domaine, c'est évidemment la Toussaint qui retient notre attention. La Toussaint, c'est demain. Beaucoup d'entre vous sont déjà allés acheter des fleurs. Parfois, les ont déjà disposées sur les tombes, malgré la pluie et malgré la météo qu'on retrouvera tout à l'heure et qui n'est guère encourageante pour la journée de demain. Mais c'est surtout demain qu'il y aura une affluence dans les cimetières. Et d'ailleurs, demain, au cimetière de l'Ouest, à 15h, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims, donne rendez-vous à tous les diocésains pour prier pour les prêtres défunts et pour toute leur famille. Au cours de l'émission de vendredi dernier, dans Parole d'évêque, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort était revenu aussi sur le démarrage de l'Assemblée plénière des évêques de France. Ce sera vendredi 3 novembre. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort.
L'Assemblée est un moment important dans notre vie pour nous évêques, hein, 2 fois par an. Cette novembre est plus longue. Nous y avons des délégués des conférences épiscopales européennes que nous avons invités. Il y a aussi des évêques d'outre-mer et voilà, j'aurai la joie de retrouver l'évêque de la Terre en Guadeloupe et l'évêque de Saint-Hilaire-Réunion, aux installations desquelles j'ai pu aller, ordinations et installations desquelles j'avais pu aller. Voilà, donc nous traiterons beaucoup de la mission, c'est un grand thème, avec un peu une question que, voilà, on parle beaucoup de mission, missionnaire, mais qu'est-ce que nous voulons dire exactement? Qu'est-ce que signifie annoncer l'évangile dans une société sécularisée comme la nôtre? Ou, autre manière de poser la question, dans un temps où nous sommes devant une pluralité religieuse partout dans le monde. Donc que signifie annoncer l'évangile? Qu'est-ce que nous en attendons? Qu'est-ce que nous espérons?
L'assemblée plénière va démarrer le 3 novembre, je crois.
Démarre le 3 novembre au matin. Pour ma part, j'y partirai, il faut que je sois le 2, donc je partirai de Reims dès le soir de la Toussaint.
Alors justement, Monseigneur, puisqu'on évoque la Toussaint, une grande fête de la Toussaint, ce sera mercredi prochain, il y aura une prière pour les prêtres défunts ce jour-là.
Oui, bien écoutez, d'abord il y a la fête de la messe de la Toussaint, qui n'est pas tout à fait la messe des défunts encore, mais qui nous... Voilà, qui la Toussaint veut dire, je dirais, comme couronner une rentrée que j'ai trouvée pour ma part très joyeuse, avec d'abord les GMJ évidemment, et puis le voyage du pape à Marseille, l'ordination de Monseigneur Véteux. Pour ma part, ce rassemblement kérigma, tout ça, c'était des moments, notre rassemblement du 7 octobre, la Saint-Remi, voilà, nous avons vécu de très beaux moments. Et la Toussaint nous donne l'espérance que nous sommes tous appelés à la sainteté, c'est-à-dire à la vie plénière en Dieu et avec Dieu. Voilà. Mais l'après-midi, comme je dois partir le lendemain, le 2, dès l'après-midi 1er à 15h, j'irai au cimetière de l'Ouest, prier pour les prêtres défunts et j'irai avec les vicaires généraux. Et toutes les personnes qui voudront nous accompagner à Reims, hein, ça se passe à Reims, au cimetière de l'Ouest, donc à 15h. Nous en profitons évidemment pour prier pour toutes les personnes, toutes les familles qui sont en deuil et tous ceux qui viennent sur la tombe d'un proche.
Évidemment, comme vient de l'indiquer l'archevêque de Reims, tout le monde est invité, tous les diocésains, en tout cas toutes les Rémoises et les Rémois qui sont dans le secteur et les environs, à venir, bien sûr, au cimetière de l'Ouest, ça sera demain à 15h, pour prier pour les prêtres défunts et pour toute leur famille. À noter aussi, pour ceux qui aiment les livres, à noter dans l'agenda, une dédicace qui aura lieu, pas maintenant, mais on peut déjà la prévoir, le 18 novembre, ce sera un samedi, l'après-midi, à la librairie Guerlain, avec Jackie Weiss, que beaucoup d'entre vous sans doute connaissent, car il était libraire, bien sûr, avec Daniel et Anne-Marie Guerlain, place d'Erlon, pendant de nombreuses années. Il vient de publier un livre qui a pour titre « Que lentement ». Passe les heures. Il est actuellement installé du côté de Bordeaux. Il reviendra pour cette dédicace. Un rendez-vous à ne pas manquer. Il sera présent sur l'antenne de RCF dans les prochaines semaines. En attendant, on va regarder du côté du ciel pour la météo de demain. Eh bien, demain, mercredi 1er novembre, le ciel de Reims et des environs sera encore couvert par les nuages. C'est pas tellement surprenant. On a vécu encore aujourd'hui dans notre région, à Reims et dans les Ardennes, pas mal de pluie avec des températures aujourd'hui de l'ordre de 10 degrés. Eh bien, les valeurs se situeront demain entre un minimum de 10 degrés et un maximum de 13 degrés. Il y aura des pluies éparses demain après-midi sur Reims et sur la région. Dans la soirée, le ciel pourrait se dégager de temps en temps de 10 à 11 degrés. C'est l'écart des températures qu'on verra. Ben, c'est un temps de novembre, c'est un temps du 1er novembre en tout cas, où on a l'habitude traditionnellement d'avoir un ciel parfois un peu ombragé. Il est 18h38, le journal local s'achève, mais dans un instant, le magazine se poursuit avec d'autres invités.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
On parle évidemment de la Toussaint aujourd'hui et c'est l'occasion pour nous d'aller regarder du côté de l'histoire et de s'adresser à un historien, un universitaire, Patrick Demuy, qui va nous parler de la Toussaint au cours des âges. Patrick Demuy, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Nous sommes à quelques heures de la Toussaint. Alors c'est vrai quand même que pour nos auditeurs, pour moi-même aussi, je suis bien content d'avoir un historien pour nous éclairer sur la Toussaint. Quelle est l'origine de cette fête? Depuis quand on célèbre la Toussaint dans l'histoire, Patrick Demuy?
Alors, la fête de la Toussaint est née dans le cadre du culte populaire envers les martyrs, qui était ensuite étendu à d'autres témoins de la foi, les confesseurs. Nous savons que les premiers chrétiens allaient se recueillir sur la tombe des martyrs, bon, ensuite sur celle des confesseurs, surtout ceux qui avaient, par leur témoignage, gagné la palme qui leur permettait de contempler la gloire de Dieu dans la béatitude céleste. Alors, démarche à l'origine plutôt individuelle, si vous voulez, mais qui devient instituée à partir du IVe siècle. Nous avons les premières traces d'un culte rendu par l'Église, alors d'abord plutôt dans la partie orientale de la Méditerranée, en Syrie, et une fête est dédiée à partir de ce moment-là à tous les saints, évidemment, c'est les saints connus et inconnus, puisque beaucoup d'entre eux, sans doute, échappent au radar, si je puis m'exprimer ainsi. Les saints connus, ce sont les martyrs, bien évidemment, c'est éclatant. Bon, ensuite, ceux qui, comme je le disais à l'instant, ont confessé leur foi, mais il y a beaucoup de saints extrêmement discrets. Comment devenait-on saint? D'abord par la piété populaire, et c'était essentiellement sur le plan local que l'évêque du lieu procédait à l'élévation des reliques pour proposer à la vénération le corps d'un saint. Bon, les procédures se sont faites ensuite plus strictes, et à partir du XIIe siècle, fin XIIe, partir du XIIIe ensuite, Rome a mis en place ce que nous connaissons maintenant, les examens minutieux, avant de prononcer, sous l'autorité du pape, la sainteté de tel ou tel. Alors, bon, quelle était la date?
Parce que maintenant, on peut s'interroger. À quelle époque tout ça va démarrer, Patrick Demuy?
Ça a changé dans le temps, puisque dans les premiers témoignages que nous avons, la Toussaint était célébrée aux alentours de, entre Pâques et Pentecôte, plutôt. Après tout...
Alors, à cette époque-là, on ne disait pas un temps de Toussaint, alors, hein,
Patrick Demuy? Non, il faisait plutôt beau. Hein. c'était une façon de les associer à ceux qui étaient aussi vivants avec Dieu, hein, qui avaient suivi le Christ dans sa résurrection. À Rome, elle était célébrée d'abord le 13 mai, date à laquelle le pape Boniface IV avait consacré un ancien temple romain que nous connaissons tous, le Panthéon, en église Sainte-Marie et des Martyrs. Et souvent, vous le savez, les fêtes de saints sont associées à la dédicace d'une église qui leur est dédiée. Et puis, quelques temps après, au IXe siècle exactement, autour de 835, si les sont exactes, le pape Grégoire IV, lui, a ordonné que cette fête, qui était née, comme vous le disiez, un peu spontanément, soit célébrée dans toute la chrétienté. Et alors, il l'a placée au 1er novembre.
Ah, pourquoi ?
Qu'était la dédicace, nous revenons à cette idée de dédicace, d'une chapelle dans la basilique Saint-Pierre, qui était dédiée à tous les saints. Et l'empereur Louis le Pieux, à l'époque, fils de Charlemagne, l'empereur Louis le Pieux que nous connaissons bien, puisqu'il a été sacré à Reims, a appuyé, dans le cadre de l'Empire, cette proclamation de la fête de la Toussaint le 1er novembre.
Alors, ça n'a plus bougé, donc.
Et ça n'a plus bougé depuis. Peut-être qu'il faut évidemment distinguer de la commémoration des fidèles défunts, parce qu'on fait trop souvent la confusion. La Toussaint, c'est une festivité, c'était très joyeux. L'introïde de la Toussaint, Goliamus omnes in domino, diem festum celebrantem, hein, réjouissons-nous dans le Seigneur.
Et dès le matin, Patrick Demuy, vous commencez très fort. Vous avez des citations latines comme ça au petit déjeuner, tous les jours.
Les introïdes des messes, pour qu'un amateur de grégorien, ça fait partie des réflexes. Et nous allons chanter à 9h à la cathédrale ce Goliamus, qui est une très très belle pièce, très, très joyeuse. Voilà, parce que la fête est une fête joyeuse. Et alors, les diocésains de Reims bénéficient depuis cette année de deux belles publications pour prier avec les saints et les saintes du diocèse de Reims et des Ardennes. Il y a deux publications distinctes. Il y a d'abord un missel propre du diocèse de Reims, qui comprend, outre bien sûr les différentes prières eucharistiques, les prières et lectures propres au sein du diocèse. Il y en a pas loin d'une quarantaine. Hein. Et chaque fête est introduite par une petite notice biographique qui resitue ce saint ou cette sainte dans l'histoire de notre diocèse. Alors ça, c'est un ouvrage relié de belle facture qui est surtout destiné à la liturgie et qui doit se trouver évidemment dans toutes les paroisses. Et puis il y a une publication plus simple,
un petit livre broché, ils ont publié par le diocèse, qui s'appelle « Prier avec les saints et les saints du diocèse de Reims et des Ardennes », où vous retrouvez toutes les petites notices dont je vous parlais, classées dans l'ordre...
Mais où trouve-t-on, je vous interromps, Patrick Delis, ces ouvrages?
Je pense que ça doit se trouver dans les bonnes librairies, comme la Procure, puisque il s'agit là d'une publication officielle du diocèse, et on peut, de jour en jour, retrouver l'histoire des saints qui
mais ces publications, je vous interromps encore, Patrick, publications sont très récentes, alors?
Elles sont très récentes, oui. Ça a été présenté, je crois qu'au début de cette année. Les maîtres d'œuvre ont été les pères Vincent
Dilizia,
voilà, et puis Cyril Gauguelin. L'ouvrage est préfacé par notre archevêque, et la préface est datée du 1er octobre 2022, la solennité de Saint-Remi. Vous voyez, donc c'est extrêmement récent, et ça a été distribué à tous les prêtres lors d'une réunion il y a quelques mois, je n'ai plus la date exacte en tête. Voilà. Donc c'est un bel ensemble de publications qui permet aux fidèles du diocèse de s'inscrire ainsi dans toute cette cohorte des saints et des saintes qui nous montrent le chemin.
Alors il faut rappeler qu'il y aura pour les prêtres défunts une prière qui sera célébrée au cimetière de l'Ouest. Ce sera le 1er novembre, je crois l'après-midi, si ma mémoire est bonne. On reviendra sur les horaires précisément dans nos prochaines éditions. La Toussaint, ça reste parmi toutes les fêtes, une fête qui est relativement suivie. Je veux dire, ça dit quelque chose.
Comme c'est une grande fête, une solennité, elle bénéficie d'une octave. Et le 8 novembre, nous avons la fête de tous les saints du diocèse. Voilà, plus spécifiquement, tous les saints du diocèse, alors ceux que nous connaissons, qui sont signalés dans les publications dont je viens de vous parler, et puis bien sûr tous les saints inconnus vers lesquels nous pouvons nous tourner.
Patrick Demuy, on vous remercie beaucoup de nous avoir précisé tout cela à quelques heures de la Toussaint 2023. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt sur RCF, si vous le voulez bien.
À très bientôt et bonne fête.
Bonne fête, bien sûr, Patrick Demuy. On vous retrouvera d'ailleurs tout prochainement, puisque jeudi matin, le 2 novembre, le jour des défunts, vous serez là avec nous à 7h et 8h et on vous retrouvera dans le 18-19 aux alentours de 18h40 dans la partie magazine de notre édition. On va prendre, si vous le voulez bien, sans transition, la direction des Ardennes, puisque nous attend là-bas Catherine Schevin, qui a sorti sa loupe. Et oui, elle observe les Ardennes. Les Ardennes à la loupe. Des Ardennes qui ont été récompensées, et ça, c'est une bonne chose. Les Ardennes sont labellisées département fleuri, avec les explications d'ailleurs de Dominique Arnoux. Catherine Schevin, c'est à vous.
Bonjour à toutes et tous, merci d'être à l'écoute de cette nouvelle émission Les Ardennes à la loupe, au cours de laquelle nous allons évoquer, une fois n'est pas coutume, une récompense. Le label département fleuri, décerné aux Ardennes par le Conseil national des villes et villages fleuris, et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Dominique Arnoux, conseillère départementale et présidente de l'Agence de développement touristique des Ardennes, à qui le Conseil départemental donc a confié l'organisation de ce concours Ville et Village Fleuri. Bonjour Dominique et merci d'avoir rejoint le studio de RCF Reims-Ardennes. Alors tout d'abord, félicitations à vous et évidemment à toute l'équipe de l'ADT pour cette récompense. En quelle année fut créé le concours des Villes et Villages Fleuri qui deviendra label plus tard? C'était, je ne sais plus trop en quelle année, mais vous allez me le dire. Et quels en étaient à l'époque les objectifs? Parce que ça a bien évidemment évolué.
Oui, bonjour Catherine, bonjour à tous. Oui, c'est vrai que le label est très ancien, parce qu'il doit dater de 1958, je pense. Le label était déjà en priorité pour mettre en valeur les communes qui fleurissaient leur territoire et voilà pour avoir une certaine attractivité. Le label a bien changé, puisque maintenant, nous regardons tous les critères qualité de vie. C'est vrai qu'au démarrage, c'était plutôt au kilo de fleurs. Ce n'est plus ça, puisqu'on a 60 critères différents, aussi bien dans l'aménagement du territoire, l'animation du territoire, l'attractivité, tout rentre en ligne de compte.
Aujourd'hui, combien de communes ardennaises ont reçu le label? Alors, une, deux et trois fleurs. qui est décerné donc par un jury régional sur proposition d'un jury départemental. C'est assez hiérarchisé,
oui,
en fait.
Oui.
Et donc, combien de communes ont reçu alors ce formidable label, c'est celui des quatre fleurs, donc qui est décerné, lui, par le Conseil national?
Alors, nous avons en tout 102 communes labellisées. Donc, deux communes quatre fleurs qui ont eu le prix par le Conseil national. Il y a 27 communes une fleur, 43 communes deux fleurs et 30 communes trois fleurs. Et là, le label est donné par le régional.
Alors, en préparant cette émission, j'ai vu que, notamment sur les quatre fleurs, alors je ne sais pas si c'est valable pour les autres, mais le label quatre fleurs n'est donné que pour une certaine période.
Ah ben les autres aussi.
Les autres aussi, c'est-à-dire que
aussi, on
c'est pas à l'infini en fait.
Non. C'est-à-dire que, pour rappeler, le département passe une année, nous proposons les communes à la fleur supplémentaire ou pour un prix. L'année d'après, c'est la région qui passe et qui attribue la fleur ou pas. Et ensuite, on a une année blanche. Et quand la région propose, par exemple, pour une quatre fleurs, c'est le national qui passe après.
Et ça dure combien de temps?
Ben, normalement, c'est trois ans.
Oui, oui. Comme le label département fleuri, je crois.
Non, département fleuri, c'est 5 ans.
Ah, quand même.
Voilà.
Bon, ça va. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, les critères de labellisation ont bien sûr évolué tout au long de ces années. Et c'est pas le nombre de fleurs qui est planté dans une commune au mètre carré qui sont pris en compte. Les fleurs, c'est maintenant, au début peut-être, mais plus maintenant. Donc, c'est bien les engagements et les démarches qui vont viser d'autres objectifs, et notamment, vous l'avez dit, en parallèle du réchauffement climatique.
Tout à fait.
C'est compliqué, là.
Oui, bah, par exemple, au niveau du département, c'est quand même un gros dossier à monter, hein, puisque c'est grâce aussi aux communes qui s'engagent dans ce label Ville à Village Fleuri. Mais quand nous sommes allés présenter le dossier, puisque moi, ça faisait 2 ans que ça me trottait un peu dans la tête et que j'ai proposé au président de monter ce dossier-là, on regarde vraiment tout ce que fait le département au niveau, justement, au niveau du réchauffement climatique. Nous avons mis en avant aussi toutes les plantations d'arbres, d'essences d'arbres différentes, puisque, comme vous le savez, on a eu des scolytes dans les sapins, et donc il y a eu beaucoup d'arbres qui ont été frappés. On a replanté. Au niveau de l'environnement, nous avons mis des ruches sur l'aérodrome de Belleval. Nous mettons des panneaux photovoltaïques. Voilà, on est vraiment engagé dans une démarche durable au niveau de tout le département.
Et puis je crois aussi que le fauchage des routes départementales est un fauchage raisonné.
Voilà, depuis déjà de nombreuses années. On aide aussi les communes pour tout ce qui est eau potable, réseau d'eau. Donc c'est aussi un engagement des communes et du département. Donc voilà, c'est tout un ensemble.
Alors on ne l'a pas dit tout à l'heure parce qu'on ne peut pas toutes les citer, les communes. Mais donnez-nous quand même les deux qui sont quatre fleurs, parce que ce sont des petits villages, en fait.
Voilà, donc c'est Vauvillaine et Semide. Alors, Semide, qui est quand même quatre fleurs depuis plus de 20 ans, avec une équipe uniquement faite de bénévoles.
On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que les particuliers et les bénévoles, c'est plus compliqué, parce que bon, vous avez des communes qui ont plusieurs fleurs, voire trois, mais qui ont des employés communaux.
Oui.
Mais là, c'est bien la prise en charge du fleurissement et de la démarche développement durable, par exemple, qui est prise en compte par des bénévoles.
Oui, tout à fait. Vous avez certaines communes qui n'ont pas du tout d'employés communaux et qui tournent avec uniquement des bénévoles. Donc les bénévoles vont regarder aussi à l'économie d'eau. Par exemple, voilà, comme on l'avait dit tout à l'heure, vont récupérer l'eau des toitures. Moi, je sais que quand je passe dans une commune, j'essaye toujours de les conseiller à faire de la récupération d'eau sur leur toiture de bâtiments publics. J'ai même proposé aussi pour certaines communes des toitures d'église, parce qu'il y avait un endroit où on pouvait mettre une cuve avec des toits énormes, donc on pouvait faire beaucoup de récupération et mettre un arbuste devant pour cacher la cuve. Mais c'est vrai que ça rentre en ligne de compte aussi.
Ça a dû peser assez fort quand même sur la décision de décerner ce label département fleuri, parce qu'il faut quand même rappeler que dans l'ex-région Champagne-Ardenne, un seul département,
oui,
l'a obtenu en 2014,
voilà, la Marne.
Alors comment ça se passe? Vous allez à Paris, vous avez monté votre beau dossier. Vous avez combien de temps pour défendre effectivement cette candidature du département des Ardennes?
Alors nous sommes déjà sur le dossier depuis plus de 6 mois, hein, pour le préparer. Nous étions à Paris avec ma collaboratrice Isabelle le 12 septembre. Nous avions une heure pour présenter le département et ses engagements. Et ensuite le jury avait 10 minutes pour nous poser des questions. Mais ils ont su nous dire que notre dossier était très complet, donc on a eu juste 3 questions.
Mais c'est une vraie performance. Allez, donnez-nous les autres départements qui ont reçu le label, parce que là, ça va faire plaisir à beaucoup, beaucoup d'Ardennais.
Oui, oui. Alors donc, on a été nominés avec l'Alsace, le Morbihan et les Côtes d'Armor. Donc, qui sont quand même trois régions...
Costaud quand même.
Hein. Costaud. Donc, nous, on a été vraiment très, très contentes quand, deux jours après notre présentation, on a reçu le mail comme quoi le label était attribué au département des Ardennes. Franchement, on était vraiment...
Ça prend quelle forme ? Vous allez avoir des beaux panneaux, évidemment, à mettre dans les entrées de département, je suppose.
Oui, alors nous allons chercher ces panneaux-là le 12 décembre à Paris, au pavillon d'Ermenonville, avec toutes les communes et les départements qui seront labellisés. Tous les ans, c'est à peu près à la même époque et au même endroit. Et on va monter sur le podium et on a encore l'occasion justement de présenter le département et ses engagements. Et on va recevoir ce panneau.
Donc vous avez bien fait d'y croire, en fait ?
Ah bah bien sûr, moi je suis dans ce label, dans ce jury depuis 2011 et président du jury départemental depuis 2015 et je suis jury régional aussi. Donc voilà, très investi dans ce label.
Dans le fleurissement. Donc chaque année, l'ADT organise, donc l'Agence de développement touristique des Ardennes organise la remise des prix au niveau du département.
Oui.
Alors je sais qu'il y a des prix nationaux aussi qui peuvent être décernés à des communes, comme le prix national de l'arbre, etc. Mais je voudrais savoir sous quelle forme qu'est remise la récompense aux communes. Alors, parce que vous avez toujours fait preuve d'imagination. Donc
voilà,
cette
exactement.
Année, ça va être quoi ?
Alors, j'essaye toujours de donner un prix aux communes labellisées qui viennent à la remise. Donc cette année, je vais leur offrir un érable rouge du Japon. L'année dernière, c'était un arbre fruitier. L'année d'avant, c'était 6 arbustes à fleurs. Nous avons donné des rosiers, des bulbes différents. Voilà, j'essaye toujours de changer un petit peu, de voir un petit peu ce que les communes ont envie aussi. Moi, j'essaye toujours de voir avec une commune labellisée pour qu'elle nous accueille gracieusement dans sa salle des fêtes. Et moi, ça me permet justement de pouvoir donner un prix aux communes.
Et là, il n'est plus question d'argent, en fait. Parce que moi, je me souviens, il y a quand même quelques années, où on remettait des chèques.
Oui, des chèques, mais on n'a plus trop les moyens. Donc, non. Moi, je préfère remettre un arbuste, un arbre, un rosier. Voilà, c'est plus sympa. La commune vient chercher son prix et se dépêche de le planter.
Alors, diriez-vous que, parce que maintenant, vous êtes en charge de ce concours depuis quand même déjà quelques années, est-ce que pour vous, donc, ce concours des villes et villages fleuris s'inscrit bien dans une démarche d'attractivité touristique, voire d'amélioration du cadre de vie dans une commune?
Ah ben, de toute façon, c'est déjà pris en compte dans le label, hein, puisque nous regardons tout ce qui se fait au niveau de la commune, au niveau animation, au niveau qualité de vie des habitants. Et je peux vous dire que certaines communes qui montent très très vite en labellisation gagnent des habitants. Mais on a aussi les communes labellisées, mais on a aussi des communes qui fleurissent bien et qui ne sont pas encore rentrées dans la démarche. Et depuis justement la nomination département fleuri, j'ai déjà trois communes qui m'ont demandé pour rentrer dans la démarche label.
Super résultat.
Voilà.
Alors encore félicitations à vous, hein, donc à l'ensemble de l'équipe, mais d'avoir défendu justement la candidature du département des Ardennes donc le 12 septembre dernier, parce qu'il n'y a pas très longtemps. Donc c'est le résultat d'un engagement de plusieurs années, comme vous l'avez dit, mais qui a commencé pour vous en tout cas en 2011. Mais n'oublions pas de féliciter les communes. Et les particuliers, effectivement, qui ont permis, par leur ténacité et leur engagement, à ce que ce département des Ardennes reçoive le label département fleuri.
Bien sûr, parce que vous avez les particuliers qui vont fleurir leur maison. Il y a aussi, au niveau des communes, des prix maison fleurie. On a aussi des communes qui proposent des bourses d'échange. Voilà, tout rentre en ligne de compte.
Merci beaucoup Dominique, merci Mounir et à bientôt pour une nouvelle émission Les Ardennes à la loupe.
Merci à Catherine Sequevin, on a parlé de fleurs, beaucoup de fleurs ont été déposées sur les tombes aujourd'hui et le seront encore demain pour les fêtes de la Toussaint. Les températures, on l'a dit demain en région Champagne-Ardennes, de l'ordre de 10 à 11 degrés, un ciel de Reims et des Ardennes encore couverts par des nuages. En attendant, bonne fête de Toussaint à tous. Rendez-vous au cimetière de l'Ouest à 15h si vous êtes disponible pour prier pour les prêtres de fin autour de l'archevêque de Reims, Mgr Éric de Moulin-Beaufort. Quant à nous, on vous souhaite une très bonne soirée, une très belle fête de Toussaint et on promet de vous retrouver régulièrement dans ce 18-19 et dans les matinales. Bonne soirée à tous.